Fois que quelqu'un vient comme ça, il y a quelque chose du Christ qu'on veut accueillir. Hein. Ce n'est pas seulement Becky, une jeune fille qui vient d'Angleterre, mais il y a quelque chose de Dieu, et il y a quelque chose de Dieu en particulier, elle est appelée à l'enseignement, et c'est le Christ qui veut enseigner au travers d'elle. Hein. Donc voilà, je crois que nous, notre rôle, c'est un rôle d'accueil, un rôle de soutien, un rôle de parent quelque part, hein, de parent dans tous les sens du terme. Voilà, alors on est enrichi en tout cas. Voilà, j'avais à cœur longtemps pour ce culte un thème. Je dis, mais Seigneur, ils connaissent déjà. Ils connaissent déjà. Eh ben oui, mais je peux pas faire autrement. Ça revient encore. Alors, il y a Richard Hayes qui est passé. On a parlé beaucoup de justice, mais encore aujourd'hui, excusez-moi, mais j'ai vraiment à cœur ce sujet-là pour nous en tant qu'Église. Et j'aimerais mettre ce sujet de la justice de Dieu en rapport avec ce que Dieu nous dit comme promesse de prendre le pays. Et il y a un rapport entre notre héritage à Guebwiller, et cette notion de justice. Et c'est ça, c'est un peu avec cet éclairage-là que j'aimerais vous parler de ce sujet. La Bible dit, Matthieu 6, verset 33, un verset qu'on chante depuis longtemps, pas trop à Josué d'ailleurs, mais bon, on le connaissait dans les années 80. Vous voyez, quand il y en a qui étaient encore en couche-culotte, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et vous voyez, et toutes choses vous seront données par-dessus. Et en fait, ça fait longtemps que Dieu nous interpelle en tant qu'Église et même au niveau de la nation en disant, mais le salut que donne Jésus, c'est pas seulement un salut pour sauver des hommes et des femmes, des individus, mais c'est un salut qui veut s'étendre au-delà, qui veut toucher notre culture, qui veut toucher nos villes. C'est pas seulement un salut qui va se restreindre à nos cœurs seulement. Ça veut déborder de notre cœur. Et on a parlé de la dimension du royaume. Et on s'est dit, mais tiens, Seigneur, tellement longtemps on a prêché un évangile du salut, alors que toi, tu as toujours prêché un évangile du royaume. C'est-à-dire que Dieu, il a quelque chose à dire, à faire au travers de nous, dans quelque chose qui dépasse largement le côté du temple, de l'église. Largement. Alors c'est pour ça qu'il dit cherchez d'abord le royaume. Alors il y a des gens qui se sont trompés. Ils ont cherché le royaume dans le ciel. Alors ils ont dit, ben voilà, on va s'occuper des choses du ciel. Rappelez-vous les enseignements qu'on a faits. Alors ils vont dire, bon ben c'est dur sur la terre quand même, mais heureusement, un jour dans le ciel, ça sera mieux. Et puis du coup, ils ont loupé la notion que le royaume de Dieu, Jésus a dit, il est là au milieu de vous. Là où vous êtes, il y a une dimension du royaume de Dieu. Alors c'est pas le royaume de Dieu complet, c'est pas le royaume de Dieu dans sa plénitude, mais le royaume de Dieu, c'est une façon d'ouvrir nos yeux et de voir que Dieu, il est présent là où je suis. Rappelez-vous le prophète qui était là, l'apprenti prophète, il avait sûrement redoublé beaucoup parce que il était sur les murailles et puis il voyait les armées ennemies et puis il a eu peur, il a dit au secours, on va être mangé. Et le prophète mûr, qui avait tous les examens prophétiques qu'il avait réussi, eh bien, il lui dit, mais Seigneur, ouvre-lui les yeux. Tu vois, il en avait marre un peu. Il commence à craquer, là. Ouvre-lui les yeux. Et tout d'un coup, il a vu. Il a vu quoi? Il a vu la dimension du royaume de Dieu, qui n'était pas, au-delà, tout ça, qui était là, autour de la ville aussi. Donc, la capacité de voir le royaume de Dieu, Dieu nous dit, cherche ce royaume. Parce que ce royaume, il est là. Ce royaume, il est là. Alors, c'est un commandement que Dieu nous dit. Cherche d'abord le royaume. Et ensuite, il est dit, et la justice. On se dit, mais c'est quoi le rapport entre le royaume et la justice? On se dit, mais c'est pas possible. La justice de Dieu, c'est quand Dieu nous justifie. D'autres pensent que la justice de Dieu cherche la justice de Dieu, c'est-à-dire, il faut exercer la justice. Il y en a qui pensent ça. Il y en a qui pensent qu'en tant que chrétiens, ils doivent exercer la justice sur la terre. Mais c'est pas ça. C'est chercher la justice de Dieu, on va le voir, ça n'a rien à voir avec soit un justicier. Tu sais, on arrive avec nos coltes évangéliques et puis on descend tout ce qui bouge. C'est pas ça le rôle, hein. Alors, quel est le rapport entre chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice? C'est quoi le rapport? Eh bien, Dieu dans sa parole, et en particulier dans le psaume 37, versets 28 à 29, je vous invite à le lire, psaume 37, versets 28 à 29, car l'Éternel aime la justice. Il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et y demeureront à jamais. Donc voilà le rapport entre la justice et l'héritage que Dieu nous donne, il est là. Ce ne sont pas les méchants qui possèdent le pays. Alors le méchant dans la Bible, ce n'est pas celui que nous on appelle forcément méchant. Hein, il va te taper dès que tu dis quelque chose. Ce n'est pas ça le méchant. Le méchant, c'est celui qui dit « il n'y a pas de loi de Dieu, je fais ce que je veux ». La Bible dit « le méchant, c'est ça ». Donc, il y a des méchants très gentils, hein, bibliquement parlant. Il y a des méchants très très gentils. Voilà. Mais Dieu dit « c'est un méchant ». Pourquoi ? Parce que la loi de Dieu, il la laisse tomber. Et il en fait qu'à sa tête. Donc ça, c'est un méchant. On a des drôles de définitions parfois, mais le Seigneur, il a les siennes. Alors, la Bible dit « les justes posséderont le pays ». Donc il est évident que pour cette possession du pays, pour Guebwiller, pour ces miséreux aussi, pour avoir cet impact, Dieu nous dit « il faut que tu recherches la justice et que tu comprennes ce que c'est que la justice ». Et j'aimerais mettre ça en parallèle, toujours avec cette prise de terrain. Je réfléchissais là-dessus, je crois que je vous l'avais déjà dit. Parfois je partage de ci, de là, après je sais plus si je l'ai dit à l'église ou si je l'ai dit en dehors de l'église, à d'autres. Alors là, du coup, j'ai un problème. Alors, excusez-moi si je me répète. Ils vont dire, celui-là, il commence. Et oui, c'est l'âge, hein, bientôt. La bonne pédagogie, c'est de répéter. Voilà, bon. Alors, je me répète. La réforme qui est venue en Europe, elle a commencé par une révélation. Donc, la réforme, c'est-à-dire, ça change les institutions. Ça va changer les gouvernements, ça va changer la façon de voir l'éducation, de voir la politique, de voir les médias, tout ça. La réforme, elle est venue, non par des gens qui se sont dit « tiens, il faudrait quand même changer les choses parce que ça va pas hein. ». C'est pas comme ça que c'est venu la réforme. La réforme, elle est venue par une révélation de la justice de Dieu. Et j'aimerais vous lire ce passage, c'est Luther, donc la réforme a commencé par Luther, c'était un moine qui aimait Dieu profondément. Il aimait Dieu. Alors il s'est fait moine. Et il fallait le faire quand même hein, aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a qui ont la tonsure au milieu de nous là encore. J'en vois pas. Non, pas tout de suite. Hein. On discute avec Louis Lombardo, pasteur à Voiron. Alors lui, il en a une belle. Tu sais. Alors souvent, on blague ensemble. Mais le moine Luther, il cherchait Dieu. Et il plongeait dans sa parole. Et il était dans sa cellule de moine. Et puis, il lisait le passage suivant. C'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, tout début de l'Épître aux Romains 1. « Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste par la foi. » Alors, le problème de Luther était le suivant. « Je n'ai pas honte de l'Évangile. » L'Évangile, ça veut dire « bonne nouvelle ». C'est ça que ça veut dire. « C'est une bonne nouvelle ». Et puis tout d'un coup, il lit « parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu ». Alors, il comprenait pas, son problème était le suivant. Il comprenait pas comment un évangile qui est une bonne nouvelle révèle la justice de Dieu. Parce que dans sa tête, la justice de Dieu, c'est la justice qui, c'est le juge quoi, qui exerce les jugements sur la terre, qui punit les pécheurs, qui condamne les coupables, etc. C'était ça, l'image de la justice de Dieu au Moyen-Âge, c'était ça. Alors il dit, mais c'est pas une bonne nouvelle. Imaginez, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Dieu va juger toutes tes œuvres et la terre entière. Alors là, il y a un problème là. Quel est le rapport entre la justice et la bonne nouvelle? Et j'aimerais vous lire Martin Luther. J'aimerais vous lire ce qu'il a découvert. J'avais le désir... Ça date de plusieurs siècles en arrière. Et ce texte-là, il est au démarrage d'un mouvement de l'Esprit de Dieu sans précédent dans toute l'histoire de l'Europe. C'est pour ça que c'était important. J'avais le désir de bien comprendre un terme utilisé dans l'Épître aux Romains, au premier chapitre, là où il est dit « la justice de Dieu est révélée dans l'Évangile ». Car jusqu'alors, j'y songeais en frémissant. Ce terme de « justice de Dieu » je le haïssais, car l'usage courant et l'emploi qu'en font habituellement tous les docteurs m'avaient enseigné à le comprendre au sens philosophique. J'entendais par là la justice formelle, active, une qualité divine qui pousse Dieu à punir les pécheurs et les coupables. Malgré ma vie irréprochable de moine, je me sentais pécheur aux yeux de Dieu. Ma conscience était extrêmement inquiète. Je n'avais aucune certitude que Dieu était apaisé envers moi. Enfin, Dieu me prit en pitié. Et pendant que je méditais jour et nuit, donc j'aimerais dire, la réforme est venue par des gens qui ont médité la parole jour et nuit. Ils ne comprenaient pas un texte et ils ont cherché Dieu avec ce terme. Ils disaient, mais ça veut dire quoi? Jusqu'à ce qu'ils trouvent. C'est pour ça que quand Dieu dit « cherche d'abord le royaume », ça veut dire « cherche ». Ça veut dire « cherche ». Donc il a dit, voilà, « pendant que je méditais jour et nuit sur le sens de ces mots, la justice de Dieu est révélée dans l'Évangile, comme il est écrit, le juste vivra par la foi, je commençais à comprendre que la justice de Dieu signifie ici la justice que Dieu donne. La justice que Dieu donne et par laquelle le juste vit s'il a la foi. Le sens de la phrase est donc celui-ci. L'Évangile nous révèle la justice de Dieu. Mais celle-ci, c'est pas la justice passive par laquelle Dieu, dans sa miséricorde, nous justifie au moyen de la foi. C'est la justice passive, justement. Dieu nous justifie au moyen de la foi. Aussitôt, je me sentis renaître. Il me sembla être rentré au paradis, même par les portes largement ouvertes. Et ça, c'est le début de la réforme en Europe. Ça, c'est le début qui a tout changé. Dieu, c'est pas un Dieu qui punit, qui est là pour juger tout ça. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, ce Dieu nous est mort et ressuscité pour nous donner sa justice à lui. Alors ça, mes amis, quand je vois l'impact que ça a eu au niveau très concret dans l'influence de l'Évangile sur les villes, je comprends pourquoi Dieu dit « cherche d'abord le royaume et sa justice ». Cherche sa justice. Qu'est-ce que ça veut dire, cette justice? Cherche-la. Regardez maintenant Romains, chapitre 4, verset 13. Et là, c'est un verset fantastique également. « En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité, mais c'est par la justice de la foi. » La Bible dit que la clé de l'héritage que Dieu nous donne à chacun de nous, et cet héritage, c'est pas seulement Guebwiller, cet héritage, c'est le monde en tant qu'Église. C'est le monde en tant qu'Église, grand E, hein. Le monde, le cosmos. Eh bien, Dieu nous dit, voilà, c'est pas par la loi que tu vas rentrer dans ton héritage, mais c'est par la justice de la foi. C'est par la foi. La foi que Dieu te donne la justice. Ça, c'est très, très important. Alors, voilà un peu l'héritage d'Abraham, c'est quelque chose de la terre. L'héritage d'Abraham, c'est pas dans le ciel, quelque chose d'inconnu, de vaporeux. Non, non. L'héritage d'Abraham, c'est la terre. La Bible dit, Dieu a donné la terre au fils de l'homme. Dieu a dit dans Genèse à Adam, eh bien voilà, tu vas dominer la terre. Donc c'est très important de comprendre que nous avons un héritage. Alors bien sûr qu'on a un héritage céleste, éternel, mais nous avons aussi un héritage terrestre. Et Dieu, il veut faire de nous des disciples, des hommes et des femmes qui vont rentrer et qui vont recevoir dans ce plein héritage. Alors, quelle est la définition de la justice? La définition biblique de la justice. Deutéronome 6, 25. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. La justice, ça veut dire obéir à tous les commandements de Dieu. Alors vous allez me dire, mais c'est pas possible. Bien sûr que c'est pas possible. Alors c'est pour ça qu'on continue. Hein. Et c'est, je reprends l'enseignement de Richard Hayes. Celui qui observe toute la loi, mais qui pèche contre un seul commandement, il est coupable devant tous. Donc la justice, c'est obéir parfaitement. Et Dieu, le rôle, Dieu, il veut habiter avec son peuple. Mais c'est un Dieu qui est juste. Alors, le peuple, il est impur. Ésaïe qui dit, Seigneur, je suis parmi un peuple qui a les lèvres impures, Seigneur. Pardonne-moi, pardonne mon péché. Et Dieu lui, il croyait être pulvérisé par Dieu. Et Dieu lui met une braise, il lui dit, voilà, ton péché est expié. Eh bien, le jour des expiations, c'est aujourd'hui en Israël. C'est dans ces jours-là. Le jour des expiations, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Dieu dit à son peuple, ton péché est expié. Ton péché est expié. Alors, Jésus, est-ce qu'il nous libère de la loi? Eh ben non. Non. Et j'aimerais dire Matthieu 5, versets 17 à 20. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera, celui qui enseignera les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Et là, j'aimerais faire une petite annonce au niveau de ceux qui enseignent la loi de Dieu. Je pense à l'école chrétienne, je pense à... Eh bien, Dieu dit, voilà, tu seras appelé grand dans le royaume de Dieu. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et les scribes et les pharisiens, je peux vous assurer, ils connaissaient leurs paroles, ils jeûnaient, ils priaient, vraiment, c'était un peuple qui essayait d'obéir à la loi. Mais Dieu dit, attention, je suis pas venu l'abolir, je suis pas venu l'enlever, cette loi. Je suis venu l'accomplir. J'aimerais rappeler aussi, nous sommes au jour des expiations, le passage dans Hébreux, chapitre 10. Il est question d'un, le jour des expiations, un souverain sacrificateur, il venait dans le temple, dans le lieu très saint, le jour, un jour dans l'année. Et puis, il avait pas intérêt à le faire à la légère. Il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont morts. On a dû les enlever parce qu'ils étaient pas purs, quoi. Et alors, regardez ce qu'il est dit. Il y aura un souverain sacrificateur qui va venir. Il est question de Jésus. Verset 16. Voici l'alliance que je traiterai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les écrirai dans leur intelligence. La nouvelle alliance avec Jésus, c'est pas que on est en dehors de la loi, mais c'est au contraire que Dieu va l'écrire dans nos cœurs. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton Dieu. Ça va devenir partie de nous. C'est ça la nouvelle alliance. C'est pas je fais ce que je veux, c'est la loi, elle devient partie de moi-même. Et ça, c'est la loi de Dieu. Alors cette loi de Dieu, être juste, c'est y obéir parfaitement. Alors on se dit, mais Seigneur, personne ne peut obéir parfaitement. Et pourtant Jésus, lui, il a obéi parfaitement. Et j'aimerais rappeler ce que Jésus a fait. Il a huit jours, hein, Jésus, il est amené dans le temple pour être circoncis. Pourquoi il fallait qu'il soit circoncis? Parce qu'il fallait obéir à la loi. Ensuite, à 12 ans, Jésus est au temple le jour de Pâques. Pourquoi il est au temple? Parce que la loi dit, à Pâques, vous irez au temple. Ensuite, Jésus, il nous est dit qu'il continue à croître et à obéir à ses parents. Pourquoi il obéissait à ses parents? Parce que la loi dit, obéis à tes parents. Ensuite, il continue, il va se faire baptiser. Et Jean-Baptiste lui dit, mais non Jésus, c'est moi qui aurais besoin d'être baptisé par toi. Et Jésus dit ceci, Matthieu 3, 14, 15, laisse maintenant faire, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Ça veut dire, Jésus a obéi à la loi. Et je vous rappelle ce que Richard nous disait, et j'aimerais qu'on reprenne ce texte, c'est dans Deutéronome 28. Et en tant qu'Église, en ce début d'année, où devant nous il y a peut-être des géants, où devant nous il y a tant d'héritages dans lequel Dieu veut qu'on rentre, rappelons-nous cette promesse, Deutéronome 28. Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi, qui t'atteindront. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, vous allez voir ce terme, lorsque tu obéiras, ça revient sans arrêt. Tu seras béni dans la ville, béni dans la campagne. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la reproduction de tes bovins, les portées de tes brebis seront bénies, ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel mettra en déroute devant toi des ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Il y a toujours cette histoire du pays que Dieu donne au juste, hein, à celui qui obéit. L'Éternel t'établira pour être un peuple saint. comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le territoire, la terre que Dieu t'a donné. Hein. Dieu nous a donné un territoire en tant qu'Église, attention. Hein. Et cette terre, Dieu dit, voilà, tu obéis, eh bien Dieu va bénir ton sol, ton territoire. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Et pour bénir tout le travail de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'en prêteras pas. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu observeras et les mettras en pratique, et que tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour vous rallier à d'autres dieux et leur rendre un culte. Donc, voyez, la promesse de l'obéissance, eh bien, c'est le ciel qui est ouvert. Et on se rappelle tous, lorsque Jésus s'est fait baptiser, le ciel s'est ouvert. Et Dieu a dit, voilà, ça c'est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et ce ciel qui est ouvert, maintenant on en vient à... quand on lit ce texte, et moi souvent, et on lisait ce texte, on dit, mais Seigneur, bien sûr que tu veux l'obéissance, mais tu vois, Seigneur, on essaye parfois de t'obéir, et on n'y arrive pas. Et alors, on chute une fois, deux fois, on trébuche et puis on baisse les bras. Parce qu'on dit, moi, c'est trop haut pour moi. Il y a tellement de jeunes qui ont baissé les bras. Parce qu'ils croient que la bonne nouvelle n'est pas une bonne nouvelle. Parce qu'ils pensent que l'évangile, c'est les il faut, c'est les tu dois. Et puis, ils essayent parce qu'ils aiment Jésus. Et puis, à un moment, eh ben, ils arrivent pas. Alors, ils laissent tomber. Et puis, ils disent, au fond, où elle est la bonne nouvelle? Voyez? Mais la bonne nouvelle, elle est ici. Elle est dans Romains 5, verset 19. Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Mais par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Par l'obéissance d'un seul. C'est pas nous, c'est lui. C'est pas nous. Donc Jésus, voyant la loi, si tu obéis, le ciel sera ouvert. Il a dit, Seigneur, moi je vais obéir à leur place, pour que le ciel soit ouvert sur eux, pour qu'ils aient l'abondance dans leur maison, pour qu'ils soient la tête et non pas la queue. Voilà Père, je vais obéir jusqu'au bout, pour que eux soient au bénéfice de ma justice. Et ça, c'est ce qui est la fête du jour des expiations. Il y a un sacrifice qui a été fait pour le péché du peuple, et le peuple était purifié après. Et le grand sacrificateur venait au nom du peuple dans le lieu très saint, asperger le sang, etc. Le grand sacrificateur, il avait des habits somptueux ce jour-là. Et il les enlevait pour s'habiller d'habits de lin, du lin, de l'étoffe un peu classique, quoi. Mais il enlevait ses habits somptueux et il s'habillait comme ça, de fin lin. Et puis il rentrait comme ça, il s'aspergeait, il faisait le sacrifice et il rentrait dans le Saint des Saints. Et bien ça nous parle de Jésus qui lui-même s'est fait ce sacrificateur pour nous. Et le sacrifice que le sacrificateur amenait, et bien c'est lui-même qui s'amène. Donc il est à la fois le sacrifice et le sacrificateur. Et il est venu ce jour des expiations, c'est lui-même qui est venu. Et ensuite il dit, Père, voilà. Il est monté au ciel, il est monté au Père. Et ça, c'est le jour de l'ascension. Et Jésus a dit, si je ne monte pas au Père, ben vous ne pouvez pas recevoir tout ce que j'ai pour vous. Et de la même façon qu'Élie est monté, et il a laissé le manteau tomber, son manteau, et il a dit, Élisée, si tu vois le manteau, et si tu le prends, eh bien, tu auras la double portion. Et le manteau que Jésus nous a laissé, c'est ce manteau de justice, justement. Et il nous l'a laissé, et c'est à nous de le prendre. Notre rôle à nous, c'est pas des efforts en premier, c'est pas tout ça. Notre rôle à nous, c'est dire, Seigneur, je crois. Je crois que ce manteau, il est pour moi. Et je crois que tu as été rendu juste pour moi. Et à cause de cela, comme a dit souvent Richard, et on veut le répéter, à cause de ça, je crois, Seigneur, que le ciel est ouvert pour moi. Et vous savez, lorsqu'on voit les combats par lesquels sont passés parfois les gens de la réforme, en se disant, voilà, ils ont cru à cette bonne nouvelle, ils ont cru, mais ils sont allés jusqu'au bout. Moi, je vois, quand on voit le prix qui a été payé, dans la joie, par ces réformateurs. On se dit, mais Seigneur, nos souffrances du temps présent, c'est rien par rapport à quelle est la révélation qu'ils ont eue si intense qui a fait qu'ils ont pu comme ça, eh bien, traverser toutes les difficultés et changer l'Europe. C'est incroyable. Et cette révélation, je prétends pas que je l'ai pleinement, que nous l'avons pleinement, mais je dis, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu nous dit, voilà. Et la pluie dans Joël 2, il nous est dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous, car il vous donnera la pluie en son temps. Et c'est là que ce Richard nous a fait découvrir que notre traduction en son temps, eh bien, ça voulait dire la pluie de la justice. De la justice. Vous prenez l'hébreu, c'est Tsadok, c'est la justice. Dieu va nous faire couler la pluie de la justice sur ce pays. Alors ça demande pour chacun de nous, voyez, eh bien, d'avoir ce fondement comme un Luther. Chercher Dieu, chercher la justice. Je ne veux pas dire qu'ici, c'est pas en un culte, c'est pas en une venue d'un Richard une fois, deux fois, qu'on va avoir la révélation de la justice. Mais Dieu nous dit, voilà, progresse et cherche ce royaume et cherche cette justice comme l'ont fait ceux dans la foi qui t'ont précédé. Et alors, Dieu te donnera toutes choses par-dessus. Par-dessus, il va te donner toutes ces choses-là. Alors, voyez, je rappelle, pour terminer, ce moine Luther qui a cherché la parole de Dieu et qui a cherché ce que Dieu voulait dire. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Où elle est cette bonne nouvelle? Et Dieu lui a révélé, et ça a changé sa vie, et ça a changé tout autour de lui. Seigneur, on veut prier maintenant. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour ce jour des expiations. Merci pour... Tu t'es substitué à nous, Seigneur. Et tu es monté au ciel et tu as laissé ce manteau, Seigneur, comme Élie, le prophète. Tu as laissé ce manteau de justice pour chacun de nous. Et Seigneur, tant de fois, on a essayé à t'obéir et on n'arrive pas pleinement. Et on se rend compte, comme a dit Patrick à la Sainte-Seine, que nous sommes dépendants de toi, dépendants de ton manteau dont nous nous revêtons chaque jour, Seigneur, ce manteau de la justice. Je te prie, Seigneur, que cette révélation, elle touche nos vies en profondeur, qu'elle amène le même fruit qui a été le fruit de Martin Luther pendant la Réforme et le fruit des réformateurs. Seigneur, merci qu'au milieu que dans cette Église, on se sente de façon objective et subjective, qu'on se sente héritier de ce manteau de la justice, au bénéfice des cieux qui sont ouverts et des promesses de Deutéronome 28. Le juste possédera le pays. Alors Seigneur, merci pour ta justice, pour chacun de nous. Je te prie pour les temps qui viennent, pour ce soir, pour les temps où on va te chercher, Seigneur, afin que tu visites ton peuple, Seigneur, comme tu as visité ton enfant Martin Luther un jour, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur...